Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346.
Alexandre Dubé est avec nous pour nous faire le tour de l'actualité. Alexandre, bonjour.
Salut Benoît.
Bonjour. On va commencer par le bilan COVID du jour parce que c'est pas nécessairement une très bonne nouvelle.
Pour la première fois cette semaine, on est repassé en fait au-dessus de la barre des 1000 cas. Là, 1030 cas ont été annoncés. Il faut dire qu'on a testé davantage. On frôle. On a même dépassé le 27 000 tests. 25 décès supplémentaires. Ça aussi, c'est une tendance qui est à la hausse et ça fait réagir. Là. Ce chiffre-là, 25, est très, très fort aujourd'hui, dont 8 qui sont survenus dans les 24 dernières heures. Par contre, il y a des indicateurs qui sont au vert là, dans les circonstances. Les hospitalisations diminuent. On est à moins 17 pour un total de 509. Et aux soins intensifs, il y a moins de gens également. Là. Moins 11. Il y a 11 personnes qui sont sorties, ce qui porte le total à 78. Maintenant, il y a des régions où c'est encore problématique. Et je pense à la région de Québec, où là, on est reparti à la hausse. 119 cas, c'est plus que ce qu'on a connu au cours des derniers jours. Et Lanaudière, on est à 130 cas. Et là, il y a eu une annonce au cours des dernières heures qui confirmait que l'ensemble du territoire de Lanaudière allait basculer en zone rouge à compter de minuit une samedi. Maintenant, là, il y aura un point de presse de François Legault cet après-midi à 13h. Il va être accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de la Santé publique, le docteur Horacio Arruda. On sait qu'on a entendu au cours des derniers jours un peu de contestation. Il y avait notamment les gyms qui menaçaient de rouvrir coûte que coûte leurs portes aujourd'hui. Là, l'Assemblée nationale s'est quand même préparée. Il y a un décret qui a été adopté hier et les récalcitrants. Et là, on a mis ça quand même large, là, mais les récalcitrants, Benoît, qui se trouveraient, par exemple, dans des commerces dont des activités sont suspendues, seraient passibles d'une amende de 1 000 à 6 000 Et ça ne touche pas uniquement les propriétaires, là, mais ça toucherait aussi les gens. Okay? Les gens qui seraient là et qui n'auraient pas d'affaires là, ça s'applique dans les gyms, dans les salles à manger, des restaurants, dans les bars, dans les salles de spectacle, dans les cinémas qui sont sous le coup d'une fermeture en zone rouge. C'est important de le préciser, là, c'est vraiment la zone rouge qui est affectée à tout ça. Mais effectivement, s'il y a des gens qui ne respectent pas ces règles-là, ben là, il y aura des contraintes financières assez importantes. Merci d'attacher à ça.
Bon, et Justin Trudeau n'a pas attendu cette fois 11 jours avant de dénoncer l'attentat qui a eu lieu à Nice.
Ouais, extrêmement choquant ce qui est arrivé encore à Nice au cours des dernières heures. Là, Justin Trudeau, oui, a dénoncé ce qui est arrivé, cette attaque terroriste, en disant qu'il est solidaire avec le peuple français contre la violence. Il dénonce ces actes injustifiables-là qui n'ont pas leur place dans notre société. On va refaire brièvement le fil des événements.
Non, mais excuse-moi, Alex, juste un mot là-dessus. Là.
Oui.
Nulle part, il mentionne le mot islamiste.
Ouais.
Jamais il mentionne une attaque islamiste. Le type crie « Allah Akbar », égorge une femme de 70 ans, une femme de 40 ans, puis un homme, un sacristain de 45 ans, père de famille. Et Justin Trudeau n'a pas la décence, encore une fois, d'identifier la nature de l'agression.
Ce que le président Macron a fait, là, lui, il n'est pas allé par quatre chemins. Il s'est rendu sur place, d'ailleurs, au cours des dernières heures, dans une allocution encore très, très, très solennelle, comme on a un peu trop... Comme on en voit un peu trop là récemment là, du côté de la France, bon, il a reparlé de ce plan Vigipirate qui était resserré. On déploie là 7000 soldats un peu partout à travers le pays. On sait que l'auteur de cet attentat-là a été arrêté. C'est un gars qui aurait 21 ans, serait arrivé en France début octobre. Là, les policiers essaient de colliger ces informations-là. Là, effectivement, ce serait un homme né en 1999 d'origine tunisienne et arrivé en France par l'île italienne de Lampedusa au début du mois d'octobre. Mais c'est horrible ce qui s'est passé du côté de Nice. Ça nous rappelle de très mauvais souvenirs. Tu te souviendras du 14 juillet 2016. J'étais en ondes, j'ai couvert ça moi en direct. C'est une couverture spéciale à la suite de cette attaque au camion Bélier, promenade des Anglais, où 86 personnes avaient perdu la vie. Ça fait suite également bon à ce professeur, M. Paty, qui a été décapité après avoir montré des caricatures dans son cours sur la liberté d'expression. Alors vraiment, c'est un climat de tension en France. Ça survient aussi au moment, Benoît, où, souviens-toi, où les Français vont aussi devoir vivre à partir de demain un autre confinement pour tenter de freiner la propagation du coronavirus. Faut pas oublier que ça arrive dans un contexte là, qui est vraiment pas évident. Alors, sur deux fronts, les Français sont extrêmement éprouvés en ce moment. On sait que le premier ministre a précisé que les mesures gouvernementales en disant bon, que le port du masque à l'école va être obligatoire pour les enfants du primaire, ça va s'appliquer dès la rentrée lundi. On ferme également plusieurs commerces. On retourne au télétravail et les entreprises de l'événementiel et des secteurs du cinéma et du spectacle seront fermées. Alors, c'est un autre dur coup là, pour la France à bien des niveaux en ce moment.
Bon, et lettre ouverte de plusieurs centaines de médecins qui s'adressent au ministre de la Santé.
Oui, ils sont 650 à signer ce matin cette lettre ouverte-là destinée à Christian Dubé. En gros, ben ils soutiennent que toute la centralisation du réseau de la santé, ça nuit au combat contre la COVID. La lourdeur du système les empêche de prendre rapidement des décisions qui pourraient sauver des vies. Et là, les médecins estiment que les conséquences de la centralisation sont graves, que le flou administratif et l'absence de gestionnaires sur place dans des centres de soins, ça amène une grande perte de temps et d'efficacité. Et puis au final, ben que ça peut résulter en la mort des patients. Donc, la pandémie, ça exerce une grosse pression sur les hôpitaux, on s'en rend compte. Les employés étaient déjà extrêmement fatigués. Il y avait un surmenage qui était là depuis longtemps. Il y a eu la première vague. Et là, ben, la deuxième qui nous rentre en plein dedans, dans un réseau de la santé qui est déjà affaibli, où les travailleurs là, sont extrêmement sollicités. Et les médecins pensent vraiment que la centralisation de la gestion constitue un facteur qui a été extrêmement grave.
Bon, il y a un rapport de la vérificatrice générale là, sur le F.A. Gauthier, là, ce traversier.
Oui, ça, écoute, c'est dévastateur. Là. Ça n'a aucun sens. On sait toute la saga du F.A. Gauthier au cours des dernières années. Et là, on montre vraiment du doigt, Benoît, l'incompétence de la Société des traversiers du Québec. Et on dit que ça a coûté des millions aux contribuables, quoique on le savait déjà. On parle de comédie d'erreur dans ce rapport-là, de mauvaises décisions. Et on va juste refaire un peu la genèse de ça, toi et moi. Okay? Initialement, le F.A. Gauthier, ça devait coûter 148 millions. Okay. Mm-hmm. Après la construction, le bill était rendu à 170 millions. Mm-hmm. Et toute cette aventure-là, quand on additionne tous les coûts, 235 millions. T'imagines-tu? Il y a eu toutes sortes de problèmes. Oui, il y a eu des dépassements de coûts, des vices de conception, des bris également. Et dans ce rapport-là, on souligne que la Société des traversiers du Québec, la STQ, n'avait pas toutes les compétences pour mener à bien ce projet-là. Après ça, le processus pour sélectionner le constructeur du navire n'était pas arrimé aux pratiques de l'industrie navale actuelle. On n'a pas tiré avantage non plus, toujours selon le rapport de la négociation. Et juste en interruption de service, parce que c'est arrivé à une reprise plein d'autres au cours des dernières années, 22 millions. Ça n'a aucun sens, c'est énorme. Et plus on lit là-dessus, plus on en apprend. Le consortium des pêcheurs en Italie, parce que ça a été construit là-bas, était inadéquat pour assurer la surveillance de la construction de ce navire-là, de ce rafio-là. Et la STQ, au moment de prendre possession du F.A. Gauthier, a accepté les défauts sur le navire. Un navire qui était pourtant neuf. Mmh. On a répertorié 54 défauts sur le bateau. Et la frise sur le Sunday, Benoît, c'est que la STQ a renoncé aux garanties sur ce navire-là.
Mais il n'y a personne de redevable. Là, la vérificatrice générale, qui sera avec Mario tantôt à 16h, mais il n'y a personne qui va... Il n'y a personne qui a perdu sa job à cause de ça. Là. Ils ont été déplacés, mais...
Il y a eu des changements, effectivement, dans l'effectif, mais moi, j'ai vraiment hâte d'entendre cette entrevue-là. Autre rapport qui était attendu, Benoît, je t'ai glissé juste un petit mot. C'était à l'Assemblée nationale également ce matin. C'était le commissaire à l'éthique qui a recommandé une sanction contre le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, dans le dossier de Move Protein. Monsieur Fitzgibbon, là, s'est adressé à la presse là, au cours des toutes dernières minutes. Je crois que c'est toujours en cours. Là. D'ailleurs, c'est défendu dans le cas du point de presse, mais reste à voir si effectivement, quelles seront ces sanctions s'il y en aura en bout de ligne. Là.
Bon, et des mesures hivernales pour les itinérants annoncées aujourd'hui?
Oui, on va surveiller ça parce que, on sait que du côté du camping Notre-Dame, Benoît, il y a toujours des gens qui sont là. Les nuits sont de plus en plus froides. Là, je comprends que pendant l'été, ça pouvait peut-être être une solution de rechange pour la population itinérante qui a doublé là, à Montréal. Écoute, on est passé là, de 3000 personnes itinérantes à peu près là, à Montréal et à 6000. La pandémie a fait très, 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 très mal pour les gens qui sont en difficulté. difficulté. Alors, il y en a plusieurs qui se sont réfugiés du côté du camping Notre-Dame, ont passé l'été là. Quand il fait une vingtaine de degrés la nuit, bon, ça peut être une solution temporaire, mais avec l'arrivée des froids, la ville de Montréal qui doit agir, donc nos collègues de TVA Nouvelles nous l'apprenaient, là, à un certain moment, il y a au moins un hôtel qui va être converti pour les accueillir. C'est un hôtel du centre-ville qui compte 380 places. Un refuge pour sans-abri aussi va ouvrir le 15 novembre prochain, et c'est la mission Bon Accueil qui va gérer ce projet-là d'unités de débordement, si tu veux, avec des haltes chaleur qui seront mises sur place pour accommoder cette clientèle-là qui est plus vulnérable. Cet après-midi, 15h, c'est à ce moment-là qu'on sera fixé sur le plan en détail de la mairesse Valérie Plante. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, sera là également.
Mais il y a la COVID.
Mais il y a la COVID.
Ben, il y a la COVID, là, les itinérants, là. T'as beau les mettre dans un hôtel où le problème, là, le problème existentiel aussi, c'est la propagation de la COVID-19. On veut pas non plus qu'ils se contaminent. Alors, comment on va gérer ça, là? Les hôtels sont vides présentement. C'est pas un hasard, là. C'est parce que les gens veulent pas y aller. Mmh. Là, on va regrouper, puis je comprends qu'il faut le faire parce qu'on peut pas les laisser coucher dehors. Ça a pas de sens.
Non.
Mais comment on va gérer ce coronavirus?
Non, mais c'est un très bon point. Là, je comprends ce que tu veux dire. C'est un très bon point que tu soulignes en ce moment, parce que c'est clair qu'il y aura un défi de logistique là-dessus. Là, tu sais, le défi de proximité, il faudra absolument trouver des solutions. Quoique dans un hôtel, si effectivement il y a plusieurs chambres disponibles, il y a moyen peut-être d'avoir une certaine distance, tout dépendant est-ce qu'ils sont plus qu'une personne par chambre, tout dépendant de quelle façon on aménage les lits à l'intérieur de l'hôtel.
Ouais.
Mais une chose est sûre, il faudra absolument trouver une solution, parce que ça n'a pas de bon sens là, de laisser des gens dehors là, alors que l'hiver s'en vient, puis que les nuits sont de plus en plus froides. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va sortir de ça. Mais c'est clair que la pandémie a augmenté, a exacerbé certaines problématiques de gens qui étaient juste sur le bord de basculer dans l'itinérance. Et là, on voit les résultats aujourd'hui. Et quand tu dis que ça a doublé là, en l'espace de quelques mois, c'est beaucoup. Là. Pas en l'espace de quelques années, Benoît,
ben oui.
L'espace de quelques mois.
Ben oui. Bon, ben, on se laisse là-dessus, Alexandre Dubé. Merci pour ce tour des nouvelles. Aujourd'hui, souhaitons que demain, ça soit mieux, hein?
Oui, souhaitons-le de tout cœur, Benoît. On se revoit demain.
Ça marche. Merci.
Salut.